Nous sommes 20 mois après la disparition d'Emmy. Nous sommes un an après la découverte d'une partie des ossements du petit garçon. Comment, Dominique, faut-il analyser les opérations menées vendredi par la gendarmerie au Auvernais? L'une des deux chapelles du hameau a été perquisitionnée et les enquêteurs sont donc repartis avec un bac à fleurs de grande taille. Un nouvel épisode de ce drame toujours non élucidé. Elisa Tranin.
Les chants ont résonné dans cette basilique varoise pour un dernier adieu à Émile Soleil le 8 février dernier, soit 19 mois après sa disparition. Un petit cercueil contenait les restes de sa dépouille, des ossements retrouvés il y a près d'un an par une randonneuse à 2 km de la maison des grands-parents d'Émile au Auvernais. La découverte du crâne avait relancé d'importantes fouilles. Des chaussures, une culotte et un t-shirt appartenant au petit garçon avaient été retrouvés environ 150 mètres plus loin, dispersés. Ont-ils été déposés là, déplacés par un animal? Autant de questions qui restent sans réponse.
Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre.
Depuis, un laboratoire bordelais aurait isolé un ADN étranger à celui de la famille d'Émile sur les ossements et vêtements de l'enfant. Le 8 juillet 2023, Émile était sous la responsabilité de ses grands-parents. La famille s'apprêtait à sortir quand l'enfant a échappé à leur vigilance. Il a été aperçu pour la dernière fois dans la ruelle principale du hameau, non loin de cette chapelle, de nouveau passé au peigne fin cette semaine.
Dominique, le décor est planté. Pour en parler, on accueille sur le plateau le général François Daoust. Bonjour.
Bonjour.
Ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. Également avec nous, Dominique, Boris Carlam. Bonjour, Boris.
Bonjour, Ronald.
Journaliste, police-justice, BFM TV. Vous êtes régulièrement, évidemment, sur le plateau et vous êtes rendu de façon extrêmement fréquente au Auvernais. Vous connaissez, évidemment, particulièrement bien ce dossier. Peut-être pour débuter, Dominique, la même question à tous les deux avant de rentrer dans le détail. Est-ce que ce qui s'est passé jeudi, et non vendredi, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est le retour au premier plan de la piste criminelle ou de la piste de l'intervention d'un tiers? Général, pour débuter.
Mais ça fait partie des trois hypothèses sur lesquelles le procureur nous avait signalé qu'il travaillait, et il y a des équipes qui travaillent sur ces trois hypothèses.
Et
Les trois, c'est un, l'enfant s'est perdu, déshydraté, il est mort tout seul, hélas, dans la nature. La seconde, il y a un accident et on dissimule le corps. Et la troisième, c'est un crime d'opportunité. On voit bien que dans la gradation, les deux premières sont les plus importantes, mais toutes les trois sont travaillées. Et en l'espèce, là, des vérifications sont faites et elles dépendent de beaucoup de choses. Et pour avoir travaillé sur le terrain, je vous garantis qu'il y a un certain nombre de lettres anonymes qui sont arrivées. Elles doivent être toutes vérifiées. Certes, celles qui parlent des extraterrestres, on les mettra de côté. Mais toutes celles qui disent, ben moi j'ai vu quelqu'un déposer quelque chose pour se faire pardonner en offrande de la chapelle. Où il m'a semblé voir quelqu'un soulever le rosier et mettre comme un petit corps ou des éléments dans une jardinière qui est grosse près de la chapelle qui pour empêcher de se garer. Tout doit être vérifié. Mais je vous rappelle un petit truc, c'est l'affaire Pauline Lafont. On avait reçu énormément de lettres de médiums qui nous disaient elle est à tel endroit, tel endroit.
Parce que ça a été comédienne, elle était connue, ce qui
fait. Exactement. Eh bien, tout a dû être vérifié, même s'ils s'étaient tous trompés. Voilà, on est obligé de le faire.
C'est une lettre anonyme, Boris, qui a ramené les gendarmes dans l'église.
C'est en tout cas un renseignement que les enquêteurs de la section de recherche de Marseille ont reçu récemment, qui leur a indiqué en quelque sorte eh bien, de s'intéresser à cette église fréquentée uniquement par la famille du petit Émile. C'est dans cet édifice que quelques jours après la disparition du petit garçon, eh bien, la famille s'était réunie pour un office religieux dans la plus stricte intimité, uniquement des membres de la famille, seulement le maire et un ami du grand-père, le maire du Vernier, un ami du grand-père, avait pu assister à cette cérémonie vraiment dans la plus stricte intimité avec les enfants de la famille. C'est une chapelle qui n'est pas utilisée par d'autres personnes. On ignore si cette chapelle avait déjà été fouillée par le passé. Et surtout, on ignore pourquoi est-ce que les enquêteurs se sont intéressés à cette jardinière qui a été saisie et qui a été transmise à l'IRCGN. Alors,
vous voulez dire, Boris, que cette chapelle Saint-Martin, c'est ça, hein?
Oui.
Mis à part la famille d'Émile, personne dans le hameau n'y va jamais.
Personne n'y va jamais, du moins ces derniers mois, dernières années. Alors cette chapelle appartient bien et sur la commune. Hein,
il y a deux chapelles dans la commune.
Il y a deux chapelles. Il y a Saint-Pancras qui est au hameau du Auvernais, et puis à quelques dizaines de mètres, il y a cette chapelle Saint-Martin qui se situe à moins de 50 mètres de la résidence familiale du petit Émile, juste à côté du lavoir. On va rappeler que le lavoir, c'est là où les chiens pisteurs ont marqué la trace du petit garçon pour la toute dernière fois. Mais on ignore pourquoi est-ce que cette chapelle intéresse aujourd'hui les enquêteurs. Alors le général le disait tout à l'heure, il y a eu de nombreux courriers qui ont été transmis, qui ont été réceptionnés par les enquêteurs.
Vous dites de nombreux, je vous interromps, on parle de plusieurs centaines de courriers.
Plusieurs
centaines. Pas de plusieurs dizaines, on parle de plusieurs centaines de courriers.
Dont une majorité proviennent de médiums. Oui, mais voilà, là, il faut quand même s'y intéresser parce que dans le doute, on ne peut pas passer à côté d'un élément qui nous éclairerait dans cette affaire. Il y a même un courrier qui a amené les enquêteurs de la SR de Marseille dans la région d'Orléans il y a quelques temps. Donc les enquêteurs se sont déplacés. Il y a eu un transport sur place de la part sur cette cellule enquête Émile pour vérifier, pour lever des doutes. Donc c'est la preuve aujourd'hui que cette cellule, elle est encore active. Il y a une quinzaine d'enquêteurs qui travaillent à plein temps sur ce dossier. Et on va rappeler que ce dossier, bien aujourd'hui encore, c'est l'une des priorités de la gendarmerie nationale.
Qu'est-ce qu'on recherche, général, quand on prend une jardinière comme ça? On le rappelle, un jardinier, oui. Alors, surtout dans les petits hameaux de montagne, c'est comme un gros tronc de bois qui est découpé et dans lequel on met des fleurs. Qu'est-ce qu'on va rechercher
dedans? Au regard de la taille de la jardinière, on peut tout rechercher, y compris le fait qu'on ait pu déposer de manière temporaire le corps de l'enfant, ou un objet, ou des vêtements, ou tout autre élément qui pourrait faire le lien entre l'enfant et la personne. Donc là-dessus, c'est tout ce qui va être recherché. À l'intérieur, les analyses qui vont être faites à l'IRCGN, c'est... Alors, l'ADN, ce sera certainement compliqué, parce que nous sommes sur de la terre, il y a des moisissures, il y a des bactéries. En revanche, on va pouvoir travailler sur le passage et les restes d'insectes nécrophages, parce que là, ça arrive très très vite, le premier jour et les jours suivants. On va pouvoir travailler sur des protéines résiduelles également, qui pourront être rapprochées de l'enfant et de la famille. Donc, il y a de quoi travailler sur le passage possible d'un petit corps qui serait resté un jour, deux jours, trois jours, ou un peu plus longtemps.
On travaille sur le contenant, donc sur la terre.
Tout à fait.
On travaille sur le
contenu.
Le contenu.
Oui.
Donc la jardinière en bois, c'est ces différents services de l'IRCG qui...
Oui, il y a différents départements. Il y a le département biologie qui va travailler sur tout ce qui est reste. Il y a le département entomologie pour les restes d'insectes nécrophages. Il y a le département empreinte digitale qui, lui, peut travailler sur le bois et certains bois qui sont assez lissés avec des produits physico-chimiques qui permettent des révélations même longtemps après. Donc, on a un certain nombre de départements spécialisés qui vont travailler en coordination, parce que le premier qui travaille ne doit pas effacer les traces qui pourraient être exploitées par le suivant.
Il y a un ordre bien déterminé.
Tout à fait. Il y a une séquence qui est déterminée de façon à pouvoir sauvegarder le maximum de traces.
Boris, je disais un peu plus tôt, piste criminelle, c'est une chose. Plus précisément peut-être, ou plus justement, piste d'une intervention humaine. Parce que la piste criminelle est une chose, la piste accidentelle peut en être une autre. Quand on parle de cette piste d'une intervention humaine, à quoi pense-t-on précisément, à l'espèce ?
À un accident. Le petit Émile qui aurait pu être renversé par un véhicule, le conducteur de ce véhicule qui panique et qui dissimule le corps après cet accident. Donc l'accident avec l'intervention d'un tiers. Souvenez-vous, Ronald et Dominique, il y a quelques mois, il y avait ce jeune agriculteur romain âgé de 16 ans qui avait été perquisitionné et qui avait été auditionné par les gendarmes, puisque les gendarmes avaient eu des renseignements comme quoi ce jeune garçon avait l'habitude de rouler à une certaine vitesse dans le village avec son quad, avec son tracteur, et qu'il avait par le passé eu déjà plusieurs accidents. Ce petit agriculteur, le jour de la disparition d'Émile, il avait eu une dispute avec le grand-père d'Émile, puisque le grand-père d'Émile le soupçonnait d'avoir endommagé un tout petit muret de construction donc de la maison familiale. Or, ce jeune adolescent n'a jamais été placé en garde à vue, il a été entendu par les gendarmes sans qu'il n'ait fait l'objet d'aucune poursuite. Et depuis plusieurs mois, est-ce que les gendarmes ont eu des éléments contre lui? Est-ce qu'ils ont voulu laisser passer du temps pour que, si ce jeune agriculteur est impliqué, il fasse la démarche lui-même d'aller raconter aux enquêteurs. Mais voilà, aujourd'hui, cet adolescent, il n'est pas impliqué dans ce dossier. Son seul tort, entre guillemets, c'est sa vitesse excessive dans ce village. C'est pour ça qu'on pense à cette piste de l'accident.
Alors, je vous réponds, Boris, puisqu'il s'appelle Romain, ce garçon. Oui. Et hier soir, j'ai revu encore une fois le Ligne Rouge de BFM TV. sur l'affaire du petit Émile. Et on a réussi, les équipes de Ligne Rouge, BFM TV, ont réussi à interviewer la maman de ce garçon qui parle de dos, qui est une agricultrice. Et quand il lui pose la question, il paraît que votre fils roulait vite, soit avec son quad, soit avec son tracteur. Eh bien, elle répond non, c'est faux. C'est absolument faux. Les gens du village racontent ça, ce sont des rumeurs, c'est faux. Mais ce dont acte, c'est fini, non?
Bah, dont acte, non, c'est jamais, la porte ne est... peut toujours rester entrouverte. Mais nous, ce qu'on nous confie sur ce projet de l'enquête, c'est que les enquêteurs ont réussi à récolter ces dernières semaines, ces derniers mois, de nouveaux éléments qui pourraient faire avancer l'enquête. Et cette piste de l'accident, du moins l'intervention d'un tiers, elle a tendance un peu aujourd'hui à prendre le dessus sur la piste d'une chute et la piste d'un crime.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu le procureur de la République au téléphone? Oui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'il vous a dit? Puisqu'il a le droit de parler, c'est l'article 11 qui lui permet de s'exprimer.
Alors, le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, m'a donc confirmé vendredi qu'il y avait bel et bien eu un transport de la section de recherche de Marseille sur les lieux du Haut-Vernay dans le cadre des investigations d'Émile. Il a tenu à rappeler que dans ce dossier, il n'y a jamais eu de garde à vue, ni même d'interpellation. Mais ça s'arrête là. C'est un procureur qui est assez peu bavard. Il n'a fait qu'une seule conférence de presse, c'était suite à la découverte des ossements. Mais il nous fait la promesse aujourd'hui de communiquer le jour où il y aura un élément probant dans ce dossier. Et le jour où il y aura une garde à vue, bien sûr, le procureur nous tiendra informé de cette avancée.
Vous ne pouvez pas, vous connaissant, ne pas lui avoir posé la question qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent?
Bah, il ne répond pas, forcément.
Est-ce qu'il vous demande de rester en alerte?
Il y a le secret de l'enquête.
Est-ce qu'il vous conseille de rester en alerte?
Il ne nous le conseille pas. Il peut tendance à nous le faire comprendre et à nous de bien saisir la formulation. Mais voilà, pour l'instant, il s'en tient au secret de l'instruction et il nous confirme du moins qu'il y a bien eu des investigations nouvelles. C'est la première fois depuis le mois d'octobre, quand même, on va le rappeler, que les enquêteurs ne sont pas déplacés dans le Haut-Vernay.
Ce qui est intéressant dans ces derniers développements et dans l'histoire que vous nous racontez, Boris, c'est qu'il y a cette mise en cause ou ces rumeurs ou ces informations concernant ce jeune adolescent. Et notamment cette altercation ou cet échange un peu tendu avec le grand-père. Le grand-père aussi. On a beaucoup parlé de sa personnalité, de son attitude. Ouais. Et on est dans un hameau minuscule, où il y a cette famille qui est extrêmement importante, où évidemment tout le monde se connaît, avec les inimitiés parfois qu'on peut avoir à distance extrêmement proche. Ce grand-père, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait désormais? On sait qu'il avait été... pointé du doigt ou mis en avant, en tout cas après le drame.
Alors, c'est dès le départ, on a su que ce grand-père, il avait parfois tendance à avoir la main lourde, que ce soit sur les nombreux enfants de cette famille. Ce grand-père, il exerce une profession médicale dans le département des Bouches-du-Rhône. Et ce grand-père, eh bien, j'ai pu le voir, le rencontrer pour la toute première fois. C'était au moment des obsèques du petit Émile. Il était placé devant cette basilique à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le département du Var. Il était là pour accueillir les nombreux invités.
C'est là de l'image, voilà. Avec ce ministère qu'est le grand-père.
Pendant plusieurs heures, il était face aux caméras à discuter et il passait devant nous régulièrement. Il n'y avait aucune volonté de sa part de ne pas apparaître sur les télévisions. Il savait qu'on était placé là, qu'on le voyait. Et il avait... c'est difficile de décrire une attitude d'une personne qu'on ne connaît pas personnellement, mais en tout cas, il faisait face aux caméras, il faisait face aux journalistes. On n'a pas pu échanger avec lui, mais tout comme le reste de la famille, puisque souvenez-vous sur ces images, les parents d'Émile sont passés à quelques dizaines de mètres de nous, il y a la grand-mère d'Émile également, comme s'il y avait une volonté, d'apparaître à la télévision, et ça, ils ont souhaité des obsèques publiques pour remercier les nombreuses personnes, les nombreux témoignages qu'ils avaient pu recueillir jusqu'à présent. Donc ce sont des gens qui aujourd'hui s'affichent sur les écrans de télévision sans pour autant qu'on puisse discuter avec eux, et on n'a jamais pu discuter, ne serait-ce qu'en off, entre guillemets, avec la famille d'Émile.
Un monde hermétique.
Une dernière question générale. Dans une enquête, il y a ce qu'on voit, ce que l'on sait, il y a ce que l'on ne voit pas et ce que l'on ne sait pas. Pour autant, et c'est ce que nous dit en substance Boris, le procureur travaille beaucoup. La prochaine étape, logiquement, ça pourrait être une garde à vue.
Alors,
ou des gardes à vue.
S'il y a les éléments, c'est parfaitement logique, c'est ce qui sera. Alors, je rappelle que le procureur fait le lien, mais ce sont les juges d'instruction qui sont à la manœuvre avec les enquêteurs. Et on pourrait parler de l'affaire Flactif, où il y avait ce qui était visible pour les médias.
Brûlé.
Voilà. Et la réalité qui était travaillée en discrétion, pour qu'au dernier moment, eh bien, quand la garde à vue, si une garde à vue doit se déclencher, il y ait un dossier qui puisse étayer cette garde à vue.